La TGC au menu des élus du Congrès. De nombreux amendements sont déposés pour faire évoluer le texte préparé par le 17e gouvernement. Le bilan météo de l'année 2024 en Calédonie, elle a été plutôt chaude mais pas très pluvieuse. Ce fut aussi fait assez rare, une année sans cyclone. Les attestations d'hébergement pour les demandes de dérogation scolaire ne sont plus acceptées par la province sud. Elle fait face à un afflux massif de demandes d'inscription de dernière minute. À l'étranger, un accord de cessez-le-feu provisoire à Gaza. Le Hamas va libérer 33 otages. Israël, plus de 1000 prisonniers. Enfin, dans la page sport, la fin des 16e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG se qualifie dans la douleur. Nantes, Lyon et Rennes ont été éliminés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Notez que les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu font leur retour tout à l'heure. Pour cette reprise, nous reviendrons sur l'année cauchemardesque que l'économie calédonienne a vécue en 2024 en raison des émeutes et nous verrons quels sont les défis énormes qui attendent le monde de l'entreprise. Nous serons pour cela en compagnie du vice-président du MENEF, Bertrand Courte, du secrétaire général de la CPME, Pierrick Châtel. Participeront également à cette émission le président de la FINC, Xavier Benoît, mais aussi celui du syndicat des importateurs, Laurent Vircondelet. La reprise des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, c'est donc dès la fin de ce journal. Journal que nous ouvrons par l'actualité économique avec la réforme de la TGC qui est enfin examinée au Congrès. Le texte avait été ajourné à deux reprises en raison de la chute du gouvernement Mapou, mais cette fois-ci, son examen est en cours, Nicolas Legrand. Un texte par le jeu des amendements qui devrait être assez largement modifié.
Oui, puisque vous le savez, ce texte conditionne le versement de 9 milliards de francs de la dernière tranche d'aide de l'État de l'année dernière. Le président du 18e gouvernement hérite de ce texte travaillé par la précédente mandature, Alcide Ponga, qui est d'ailleurs le seul représentant du gouvernement présent ce matin en raison de la non-attribution des secteurs pour le moment. Il souhaite toutefois l'adoption d'une réforme de la TGC pour obtenir, je cite, « cette queue de budget qui est très importante pour l'ensemble des collectivités ». Mais les loyalistes et le Rassemblement notamment regrettent que ces réformes soient dictées par Bercy, car elles conditionnent l'aide de l'État à la Nouvelle-Calédonie après les violences de mai. Sonia Backès a d'ailleurs pris la parole ce matin et elle a formé le vœu que ce soit la dernière séance où nous subissons les demandes de l'État. Fin de citation. Les loyalistes et le Rassemblement qui ont d'ailleurs déposé un vœu pour la mise en place d'un séminaire des dépenses publiques afin que l'amélioration de la situation budgétaire du territoire se fasse par une réduction des dépenses plutôt que par une augmentation de la pression fiscale sur les Calédoniens. Il faut dire que le texte préparé par le gouvernement précédent prévoyait en effet une hausse du rendement estimée à 6,5 milliards de francs par an. Les loyalistes et le Rassemblement ont donc déposé plusieurs amendements durant cette séance qui est marquée par l'absence des élus du groupe UNI. L'objectif est donc d'adopter une réforme de la TGC pour pouvoir obtenir les 9 milliards de francs, mais sans pour autant faire peser la pression sur le portefeuille des Calédoniens. Un grand nombre d'articles a d'ailleurs été rejeté ce matin et l'examen du texte se poursuit en ce moment même, article par article. Je signale par ailleurs que la séance avait débuté par un changement à la commission permanente du Congrès. Vous le savez, Alozio Sacco ne siège plus au Congrès depuis la mise en place du 18e gouvernement. Et ce matin, il a donc été remplacé à la commission permanente par Omer Aneslin du groupe UCF-LNKS et nationaliste. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Pensez-vous que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris pour participer aux discussions sur l'avenir annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale? Si vous pensez que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier à l'unanimité. Les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS craignent une hausse significative des accidents mortels de la circulation cette année, après un taux de mortalité routière exceptionnellement bas en 2024. Les conditions d'inscription en primaire durcies par la province sud. Désormais, les simples attestations d'hébergement ne seront plus acceptées dans les demandes de dérogation. La décision a été prise car la collectivité fait face à un afflux massif de demandes d'inscription de dernière minute cette année, Charlotte Coutson.
Ce sont près de 1000 dossiers qui sont à traiter depuis la fin des inscriptions en août 2024, soit plus du double de l'an passé. Un nombre conséquent d'élèves que ne peut pas tous accueillir la collectivité. Il a donc fallu durcir les conditions d'inscription, particulièrement en ce qui concerne les demandes par attestation d'hébergement. Un phénomène qui s'est accentué cette année. C'est ce que constate Christophe Bergerie, secrétaire général adjoint de la province sud.
Ce qui est assez nouveau pour cette année, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'inscriptions avec des simples attestations d'hébergement. Il y a un double phénomène. Il y a un phénomène évidemment en fait de personnes qui vivent dans les squats. On a toujours eu ces personnes qui vivent dans les squats et qui viennent avec des attestations. Donc ça change pas, on le sait. Mais il y a aussi un autre phénomène en fait, on va dire, de contournement de la carte scolaire. des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans des quartiers, on va dire, réputés plus sécures. Mais simplement, on ne peut pas nous répondre à toutes ces demandes parce que, encore une fois, la responsabilité de la province, c'est bien de garantir cette qualité d'enseignement, quelle que soit l'école, quel que soit le quartier.
Les attestations d'hébergement ne seront donc plus suffisantes pour les inscriptions en primaire. Une mesure qu'applique déjà le vice-rectorat pour les inscriptions en collège et en lycée. La décision pour la province sud a été mûrement réfléchie, mais c'est la qualité de l'enseignement à l'école qui a été privilégiée. On retrouve Christophe Bergerie.
Alors nous, ça nous pose des vraies difficultés d'ordre d'organisation, parce que derrière une inscription scolaire, il y a toute une organisation. Vous imaginez bien qu'il faut prévoir des locaux, il faut prévoir des équipements, des enseignants. Et tout ça se prépare des mois à l'avance. Comment on arrive aussi après à concilier ces arrivées massives de dernière minute avec un objectif de qualité de l'enseignement ? C'est-à-dire que l'objectif de la province, c'est de pouvoir garantir un enseignement de qualité partout, quelle que soit l'école, quel que soit le quartier, quelle que soit la commune. C'est les mêmes enseignements, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes équipements, c'est les mêmes programmes. Mais cet objectif de qualité d'enseignement, il ne peut pas se concilier si on a des arrivées massives au dernier moment. C'est très compliqué pour nous.
Christophe Bergerie, secrétaire général adjoint de la province sud, qui ajoute qu'évidemment, aucun élève ne sera laissé pour compte. Chaque demande sera traitée avec la même attention que les années passées.
Une année 2024 chaude, mais pas forcément très sèche. C'est ce qui ressort du bilan météo de l'année écoulée. Il était présenté ce matin par les services du Centre Météo France de Nouméa, Lionel Sabot.
Oui, en climatologie comme en météorologie, il ne faut pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Il est donc important d'expliquer pour commencer que l'année météo 2024 s'inscrit dans un contexte global et à l'échelle de la planète. 2024 aura été l'année la plus chaude jamais connue depuis le début de l'ère industrielle. Une année chaude tant au niveau des températures de l'atmosphère qu'au niveau des océans, un état de fait qui a des répercussions évidemment dans la zone pacifique et donc en Nouvelle-Calédonie. Thomas Abinoun est climatologue au Centre Météo France de Nouméa.
L'année 2024, elle est remarquable par des températures qui sont restées élevées et au-dessus des normales presque toute l'année. Elle se situe comme la troisième année la plus chaude depuis 1965, avec des températures notamment en saison fraîche qui ont été très très douces. Et concernant les pluies, on a des pluies qui ont été conformes à la normale en moyenne pays et en moyenne annuelle. Mais derrière cette normalité, en réalité, il y a un vrai contraste, un contraste géographique avec la côte ouest qui a été faiblement arrosée, avec 24% de déficit de pluie en moyenne annuelle et notamment une saison sèche qui a été sévère sur la côte ouest. Tandis que la côte est, elle, a connu un excédent de pluie de l'ordre de 15%.
Et en termes de précipitations, il y a donc, on vient de l'entendre, un fort contraste en termes géographiques, mais aussi un contraste saisonnier. On retrouve Thomas Abinoun.
Des pluies en saison humide qui ont été conformes au normal en début d'année 2024 et supérieures au normal avec l'apparition de la Niña en toute fin d'année. Mais la saison hivernale de mai et jusqu'à septembre a été l'occasion d'une sécheresse qui a touché l'ensemble du pays. Et le plus sévèrement, c'est la région nord-ouest de la Grande Terre, avec plus de 60% de déficit de pluie sur cette période.
Et concernant les précipitations, on retiendra que la station de relevé de Bourraqué à Bouloupari a enregistré le cumul le plus faible de l'année 2024, avec 471 mm de précipitations l'an dernier. A contrario, c'est la station de Goro, ancienne pépinière, qui a enregistré le plus fort cumul de l'année 2024, avec 3713 mm, ce qui représente plus de 3 mètres de précipitations sur une année. On retiendra également que cette année 2024, que pour la première fois depuis 1977, est le début de l'ère satellitaire dans la météorologie. Aucun cyclone n'a été signalé dans notre zone de surveillance cyclonique. Cela peut paraître de prime abord paradoxal à l'heure où l'on le disait, la température des océans est de plus en plus chaude. Explication Thomas Abinoun.
À l'échelle planétaire, ce dont on est sûr, c'est que le changement climatique provoque non pas une augmentation du nombre de cyclones, parce que le nombre de cyclones reste constant, voire peu diminué, mais on observe une augmentation de l'intensité des cyclones. C'est-à-dire que quand un cyclone se forme, il est plus puissant, plus de vent, plus de pluie et souvent plus dévastateur. Donc ça, c'est une réalité à l'échelle planétaire. Au niveau du Pacifique, pour l'instant, il n'y a pas encore de véritable consensus là-dessus. Néanmoins, si on regarde l'évolution du nombre de cyclones, c'est-à-dire qu'on compte simplement le nombre de cyclones passés d'année en année, eh bien, on observe quand même que depuis 20 ans, on en a moins. On en a moins qui circulent sur le Pacifique et on observe aussi qu'ils sont plus intenses. Mais on ne peut pas encore en tirer une généralité, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée, même si on peut l'observer concrètement depuis 20 ans. Hein, y en a un peu moins, ils sont un peu plus forts. Il nous faut encore davantage de données pour pouvoir confirmer que ce signal s'inscrira dans la tendance.
Un mot également des premières prévisions pour l'année 2025 qui vient de débuter. Les modèles indiquent que pour les 12 prochains mois, le phénomène La Niña devrait rester faible, que les précipitations devraient être supérieures au normal au moins durant le premier semestre et que les températures devraient également rester supérieures au normal.
Allez, avant de marquer une première pause dans ce journal, notez qu'il y aura bientôt un nouveau commissaire délégué pour la province Nord. Gérard Péot a été nommé à ce poste par décret du président de la République le 13 janvier. Il prendra ses fonctions d'ici la fin du mois. Frédéric Préaux était chef de projet au secrétariat général du ministère de l'Intérieur et avait été avant cela sous-préfet de Meaux. Il succédera donc à la fin du mois à Frédéric Bouteille. Une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Des femmes chefs d'entreprise accompagnées dans leur parcours professionnel par la CCI, c'est l'objet du dispositif Femmes dirigeantes inspirées et inspirantes qui a été lancé aujourd'hui, Léana Colombo.
Oui, elles sont 13 venant d'un peu partout de Calédonie et même des îles à avoir été retenues pour participer à ce dispositif d'accompagnement piloté par la CCI. Toutes ont une entreprise en lien avec l'économie sociale et solidaire et durant près de 6 mois, elles vont se côtoyer, apprendre les unes des autres et acquérir de nouvelles compétences. Parmi les participantes, Amélie Toureau-Tabar, directrice de la ressourcerie à Nouméa. Elle faisait partie de la première session, mais en raison des émeutes, le dispositif n'avait pas pu aller jusqu'à son terme. Elle a donc intégré avec joie la nouvelle promotion 2025.
C'est l'occasion d'une mise en réseau avec de nombreuses femmes qui portent des valeurs communes. C'est aussi l'occasion, je pense, de pouvoir vraiment échanger de façon concrète, de pouvoir monter en compétences, de pouvoir prendre du recul sur nos dispositifs qu'on pilote toutes. C'est aussi la possibilité de mettre la lumière sur ces femmes qui dirigent des structures. C'est aussi une façon de mettre la lumière sur l'économie sociale et solidaire, sur laquelle on attend quand même une loi depuis de nombreuses années, nous, les acteurs de terrain, et de peut-être dire que voilà, on n'est pas juste un concept, on est là et on est prête. Et on est motivé et c'est super chouette qu'on puisse être accompagné pour faire grandir nos projets. Si en parallèle, la loi pouvait nous accompagner aussi, ce serait juste parfait.
Cet accompagnement est entièrement pris en charge par la CCI, l'AFD, mais aussi le ministère des Outre-mer. Son programme sera modulable et élaboré sur mesure afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées par ces femmes. Christian Tillon, chargé de projet de conseil aux entreprises à la CCI, évoque des participantes prometteuses et sait déjà vers quoi les emmener.
Des organisations déjà très très volontaires, très impliquées et femmes chefs d'entreprise ou dirigeantes. Donc très solidaires de leurs associations, c'est ce qu'elles expliquaient tout à l'heure, de tout ce qu'elles ont décidé en fait. Donc oui, c'est prometteur, il y a eu un bon panel. Le contexte économique fait qu'on est obligé de réimaginer le modèle social, le modèle économique. C'est en cela que ça va être peut-être intéressant et que celles qui ont décidé de participer ou de s'investir, elles ont déjà tout dans leur tête, c'est tout bien calé, quoi. La recherche de financement, c'est la problématique, une des problématiques de toutes les associations et entreprises proches de l'ESS. C'est qu'il faut trouver du financement puisque le principe, c'est le reversement des bénéfices. Donc.
Pour débuter cet accompagnement, des évaluations individuelles des structures sont réalisées pour réaliser un diagnostic personnalisé. Viendront ensuite les ateliers collectifs et les formations. Un suivi sera enfin élaboré pendant 6 mois par la CCI pour constater les résultats.
Le COS lance un nouvel appel à la vigilance aux usagers du lagon, surtout pendant cette période estivale. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage mène à la fois des missions de surveillance en matière de sécurité maritime et il coordonne aussi les opérations de recherche. Son directeur, Nicolas Chomard, qui était notre invité ce matin, a rappelé que les plaisanciers et les utilisateurs du lagon devaient faire attention à leur sécurité. Ils doivent pour cela avoir des moyens de communication. C'est par exemple ce qui a permis de retrouver un homme à la mer vendredi dernier. Un vrai motif de satisfaction, nous a dit Nicolas Chomard, d'autant plus que ça s'est passé la nuit.
Ce type d'opération d'homme à la mer n'arrive pas tous les jours. Il y en a une ou deux par an, pas plus. Hein. Mm-hmm. Et c'est pas si fréquent que ça qu'on retrouve les personnes tombées à la mer, que ce soit d'ailleurs de jour, et c'est souvent plus compliqué de nuit. C'est une belle opération, mais déjà, elle commence bien, cette opération, si je puis dire, parce que les personnes s'en rendent compte et surtout nous appellent tout de suite. Il arrive parfois que des gens aient un problème en mer ou perdent quelqu'un et ils nous appellent après avoir commencé par exemple les recherches. Ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'ils ont contacté le centre tout de suite et ça c'est très important. Donc le COS, à partir du moment où il a l'information, il peut engager un nombre de moyens importants, diffuser d'abord un message de détresse, hein, relayer l'information en mer, ce qui a permis à un certain nombre de navires qui étaient déjà sur zone de se dérouter de commencer à rechercher très rapidement. Et ensuite, il y a un beau travail de coordination, oui, entre le COS qui effectue le calcul des zones de recherche et les moyens qui sont engagés par le centre. Et dans ce cas d'espèce, il y avait la pilotine des pilotes maritimes qui étaient déjà sur zone, ainsi que des navires privés. Et on a engagé la vedette nautile de la station SNSM de Nouméa, qui d'ailleurs, une fois qu'elle a été arrivée dans la zone, est tombée sur la personne. Donc c'est une belle opération parce que surtout, on a retrouvé la personne en vie. À la mer, une personne à la mer de nuit, c'est assez rare.
Le patron du COSNC a également alerté sur la présence en ce moment de requins près des côtes. Il y a un vrai risque, nous a dit Nicolas Chomard.
En ce moment, on est en zone rouge, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un risque maximum, je considère, sur le sujet requin. On a quand même eu depuis un mois 9 signalements de requins. Et là, cette semaine, on a un signalement par jour. On a des grosses squales en ce moment qui sont près des côtes. C'est constaté, c'est observé. On a un comportement agressif des squales qui est constaté également. Et surtout, on a en 15 jours 3 attaques, dont une mortelle. Si je devais classer les risques sur une échelle de 1 à 10, en ce moment, je pense qu'on est à 10. Voilà. Donc il faut faire très attention. J'appelle à très grande vigilance sur le sujet requin en ce moment. Et partout en Calédonie, hein, ce n'est pas un sujet qui est spécifique à Nouméa.
Nicolas Chomard, le directeur du COSNC, qui était notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet rrb.nc. Que faire après le bac? C'est une question que se posent de nombreux jeunes à la fin de leur cursus scolaire. Il n'est pas toujours évident de s'orienter et pour les aider, un dispositif de service civique peut être une solution. La Province Sud organise aujourd'hui et demain des job dating au cours desquels les jeunes peuvent rencontrer les organismes professionnels, Charlotte.
Et peut-être, qui sait, trouver leur voie. C'est vrai qu'il est parfois difficile d'entrer dans la vie professionnelle, qu'on sorte du lycée ou des études. Les entreprises demandent de l'expérience. Les jeunes, eux, cherchent parfois encore leur voie. Et c'est là que le service civique peut aider. Il s'agit d'un dispositif que propose l'État en partenariat avec la Province Sud et qui permet justement de s'engager dans une mission de 7 mois. Les seuls critères requis sont l'âge et la motivation. C'est ce que met en avant la Province Sud dans le recrutement des jeunes. Abédia Strain de Habreux, chargée de mission auprès de la Direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la Province Sud.
Aujourd'hui, les bénéfices pour les jeunes qui veulent s'engager, c'est surtout d'acquérir de l'expérience professionnelle et des compétences qui sont attendues pour pouvoir entrer dans le monde du travail, en sachant que sur les recrutements, on ne regarde pas le niveau de diplôme. Il faut simplement avoir les critères 16-25 ans et 30 ans jusqu'en situation de handicap, de telle manière à ce qu'ils puissent après choisir peut-être un profil professionnel qui pourrait leur correspondre. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être motivés pour venir et d'avoir cette notion d'engagement qui est véhiculée et à la fois par l'État, mais qui est aussi véhiculée par la Province Sud. Et la deuxième chose, on va regarder plus les compétences qu'il a acquises dans sa vie, du moins personnelle ou étudiant, pour pouvoir savoir s'il correspond aux offres qu'on propose.
Et cette année, c'est justement une centaine d'offres que propose la Province Sud dans des secteurs divers et variés, que ce soit la santé, l'éducation, la culture, les sports ou même l'environnement. Des recruteurs des différents organismes professionnels étaient réunis ce matin pour rencontrer les jeunes, des Calédoniens et Calédoniennes qui cherchent avant tout à gagner en expérience.
Je m'appelle Mouna Noamanaël, j'ai 18 ans et je suis actuellement à la recherche d'un travail.
Et c'est quoi pour toi le but de faire un service civique?
Ça me permet de savoir aussi ce que je veux faire plus tard. Ça va me permettre aussi de faire de nouvelles rencontres et puis peut-être de me motiver aussi pour autre chose. Ils m'ont posé des questions sur quelle mission je voudrais faire et pourquoi. Après, voilà, ça se passe très bien.
Moi, je suis Elena. Je suis actuellement demandeur d'emploi au sein de l'ADEL.
Toi, c'est quoi qui te motive à faire ce service civique?
Rebondir sur un emploi. Donc là, c'est vrai qu'on ne reçoit pas un salaire, mais plutôt une indemnisation. Donc là, c'est gagner en compétences et en expérience et pouvoir rebondir sur un travail à l'issue. J'encourage la jeunesse à s'orienter et puis surtout se lancer dedans.
Et le job dating continue demain à l'espace jeune de la province sud. Il suffit de se présenter avec son CV et sa lettre de motivation. Les inscriptions peuvent également se faire en ligne sur le site de la province sud. Attention, ne perdez pas de temps. Certaines missions débutent dès le début du mois de février.
L'actualité dans la région maintenant avec ces intempéries dans le New South Wales hier soir et cette nuit. Elles ont provoqué d'importants dégâts et causé la mort d'une personne. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un octogénaire a été tué lorsqu'une branche d'arbre est tombée sur sa voiture dans le centre du New South Wales. Les orages qui s'y sont abattus et qui ont ensuite déferlé sur l'est de l'État ont causé partout des dégâts considérables. Ils étaient accompagnés de pluies torrentielles et de vents violents dont certaines rafales ont atteint les 120 km/h. Des toitures d'habitation ont été arrachées, tandis que les arbres déracinés se couchaient sur les lignes électriques. Au plus fort de la tempête hier soir, 140 000 usagers ont été privés de courant et plus de 100 000 l'étaient encore ce matin. Les services d'urgence, quant à eux, ont reçu 2500 appels à l'aide ces dernières 24 heures. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h52, on va se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde, avec notamment cet accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actualité à l'étranger. Des milliers de personnes ont manifesté leur joie dans les rues de Gaza, mais aussi dans celles de Tel Aviv. Après 15 mois de conflit déclenché par le Hamas le 7 octobre 2023, le mouvement terroriste et Israël ont conclu un accord de cessez-le-feu, salué dans le monde entier. Les discussions ont été longues et difficiles et se sont déroulées pour la plupart du temps au Qatar. La diplomatie américaine a joué un rôle important. Alors, un cessez-le-feu, mais aussi un échange d'otages contre des prisonniers. Que contient exactement cet accord? À Tel Aviv, Frédéric Simon pour Europe 1.
L'accord devrait entrer en vigueur dès dimanche. Il prévoit une période de trêve des combats de 42 jours renouvelables. Son éventuel renouvellement fera l'objet de négociations ultérieures, tout comme la libération de tous les otages. Car dans cette première phase, seuls 33 des 98 détenus seront libérés. Il s'agit des enfants, des femmes, des hommes âgés d'au moins 50 ans et des hommes jeunes, blessés ou malades. Leur libération s'échelonnera en plusieurs étapes. 3 otages seront libérés dès le premier jour de la trêve, dimanche donc, 4 autres le 7e jour. Chaque semaine supplémentaire verra la libération de 3 captifs. Le Hamas s'engage à libérer les 14 derniers otages sur les 33 au cours de la dernière semaine de cette période de 42 jours de cessation des combats. Parallèlement, Israël libérera plusieurs centaines de détenus palestiniens, certains condamnés à de lourdes peines de prison pour terrorisme. L'armée israélienne se retirera de plusieurs positions qu'elle occupe dans la bande de Gaza et les civils gazaouis seront autorisés à regagner le nord du territoire.
Cet accord de cessez-le-feu est donc salué par les populations des deux camps, même si l'extrême droite israélienne dénonce un accord dangereux pour Israël. Fait assez rare, le président de la République israélienne, Yitzhak Herzog, a pris la parole à la télévision.
En tant que président de l'État d'Israël, je le dis de manière très claire, c'est un bon choix. C'est un choix important, un choix nécessaire. Il n'y a pas d'obligation morale, humaine, juive ou israélienne plus grande que de ramener nos fils et nos filles parmi nous pour qu'ils puissent récupérer chez eux ou être enterrés.
Si les choses se déroulent donc selon les termes de cet accord, 33 otages israéliens devraient retrouver la liberté d'ici fin février. En métropole, une question domine l'actualité. Les socialistes vont-ils ou non censurer le gouvernement Bayrou ? À vrai dire, ça ne changera pas beaucoup car le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il ne voterait pas cette fois-ci la motion déposée par la France insoumise, les écologistes et les communistes. Même si les socialistes la votent, elle ne devrait donc pas recueillir suffisamment de suffrages pour être adoptée. Mais le gouvernement cherche tout de même l'appui des socialistes, au moins une partie d'entre eux. Le Premier ministre leur a donné de nouveaux gages supplémentaires sur la réforme des retraites. Il a aussi annoncé qu'il renonçait à supprimer 4000 postes d'enseignement supplémentaires. Cela suffira-t-il pour éviter que les socialistes votent la motion de censure ? Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
C'est encore assez difficile à dire car le Parti socialiste est en pleine bataille interne sur le sujet. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre les députés, et ce même après 3h30 de discussion. Une frange des socialistes reste déterminée à renverser François Bayrou, notamment à cause de l'absence de concessions sur les retraites. Écoutez le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner.
Le Parlement devra alors impérativement avoir le dernier mot et débattre de toutes les options mises sur la table par les partenaires sociaux. Nous voulons vous entendre clairement sur ces questions, car le compte n'y était pas à l'Assemblée nationale, ni hier, ni encore aujourd'hui au QAG.
Si le Premier ministre se plie à cette demande, alors l'accord de non-censure devrait voir le jour. Plusieurs députés proches de François Hollande l'espèrent encore. Hier, on a obtenu l'impôt sur les grandes fortunes. Aujourd'hui, le maintien des 4000 postes d'enseignants. Demain, nous pouvons obtenir une victoire sur les retraites, assure un cadre socialiste. Une dernière réunion de groupe aura lieu demain midi pour tenter de trouver une position commune avant le vote de la motion de censure.
Et puis le nouveau gouvernement doit vite éteindre un début de polémique causé par François Rebsamen. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, issu des rangs socialistes, a déclaré hier à la télévision qu'il respectait toutes les forces politiques, sauf le RN. Le président du Rassemblement national a évidemment immédiatement réagi. Jordan Bardella a demandé le respect aux 11 millions de Français électeurs du RN. Mais la déclaration provoque aussi de l'incompréhension, voire de la colère auprès de ses collègues. Alors, quelle est la position de l'exécutif ? La question a été posée à la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, à l'issue du Conseil des ministres.
La position du gouvernement est inchangée. Vous savez que le Premier ministre fait du dialogue avec l'ensemble des forces politiques qui souhaitent dialoguer avec lui une priorité pour trouver ce chemin de compromis dont nous parlons. Donc, ce n'est pas la position du gouvernement.
Est-ce une erreur de François Rebsamen ?
Ce n'est pas la position du gouvernement.
Voilà donc la réponse de la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima. 11h58, la dernière pause. Et ensuite, c'est l'actualité sportive avec Lionel Sabot. Et ensuite, la reprise des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
You by Kotex, une gamme de protection hygiénique qui répond à tous vos besoins. En janvier, pour le mois de la solidarité féminine, achetez vos protections hygiéniques You by Kotex et soutenez une jeune femme dans le besoin.
Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, première radio d'information.
La suite du 11-13 avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Voilà l'actualité sportive que l'on va débuter avec le football parce qu'on jouait ce matin la fin des 16e de finale de la Coupe de France. Il y a eu des surprises, Lionel.
Ah oui, et la première surprise, même si les choses se sont finalement bien finies, c'est de voir se retrouver le Paris Saint-Germain en très grande difficulté face à Espaly, club de la région du Puy-en-Velay qui évolue en National 3. C'est l'équivalent de la 5e division. Les Parisiens sont imposés 4-2, mais ils n'ont décroché leur victoire que dans les derniers instants de cette rencontre, grâce à des buts de Barcola à la 88e et un but inscrit sur pénalty par Ramos dans le temps additionnel de la rencontre. Paris s'est fait peur, mais Paris jouera bien les huitièmes de finale de cette Coupe de France. Pour le reste, on notera l'élimination lors de la séance des tirs au but de l'Olympique Lyonnais, battu par Bourgoin-Jallieu, club de National 2. Élimination également de Rennes, club de Ligue 1, qui a été battu 1-0 par 3, qui évolue en Ligue 2. Élimination également du Nantes d'Antoine Comboiré, qui s'est incliné 2 2-1 face à Brest, club de Ligue 1. Pour le reste, on signalera la qualification de Toulouse, d'Angers, de Saint-Brieuc aux dépens d'Annecy, de Cannes, mais aussi de Strasbourg.
Allez, le tennis avec la suite de l'Open d'Australie, c'est aujourd'hui le début du troisième tour.
Ah oui, et les matchs ont repris, il y a une petite demi-heure maintenant à Melbourne. En simple, deux Français seront sur les cours aujourd'hui. Chez les messieurs, Gaël Monfils rencontrera l'Allemand Altmaier. Et chez les dames, Varvara Gracheva affrontera l'Allemande Lys. Rappelons qu'hier, côté français, Hugo Humbert s'est qualifié en 3-7 sur le Libanais Habib. Score final 6-3, 6-4, 6-4. Qualification également d'Arthur Fils face à un autre Français, Quentin Alice, et de Benjamin Bonzi sur l'Italien Passaro. Élimination en revanche hier d'Arthur Cazot et d'Hugo Gaston.
Et puis on va terminer cette page sport avec de la voile et le Vendée Globe. On attend Sébastien Simon maintenant pour que le podium de cette édition 2024-2025 soit complet.
Oui, alors il va falloir être un peu patient. Sébastien Simon est à 166 000 nautiques de l'arrivée au Sable d'Olonne, mais il a été obligé de remonter très au nord avant de pouvoir repiquer plein sud en direction de la Vendée. Au dernier point d'âge sur le tracking du site du Vendée Globe, Sébastien Simon, à bord de Groupe Dubreuil, se trouvait, écoutez bien, au niveau de la latitude de la pointe du Raz. C'est la pointe qui est la plus au sud du Finistère. Sébastien Simon, à qui n'est pas attendu sur la ligne d'arrivée avant demain matin, 6h, heure de Nouméa. Derrière Sébastien Simon, le quatrième de la flotte est loin, très très loin des sables. Jérémy Bayou et un petit groupe de 6 bateaux sont au niveau des îles du Cap Vert, au large de l'Afrique, à plus de 4400 km de l'arrivée. Ses concurrents, eux, ne sont pas attendus au Sable d'Olonne, sur les pontons, avant le 24 janvier, c'est-à-dire avant vendredi prochain.
Eh bien, on va patienter. Il est midi et 2 minutes, c'est la fin de ce journal.